Bonjour, belle et bonne après-midi en ce dimanche 16 décembre 2012. Bienvenue dans ce groupe de partage autour des enseignements non-duels, autour des enseignements qui nous parlent de l'unité et qui nous disent d'une manière ou d'une autre cette vérité, nous sommes un. Voilà, c'est un sujet qu'on pourra bien sûr approfondir. Et avant de commencer, je vous invite à écouter ce gong, ce chant, cette note fa qui va sortir de ce bol de cristal, que je vais aussi faire un peu chanter si j'y arrive. Merci. Voilà, cette note fa me parle beaucoup puisqu'elle symbolise ce qui nous unit par le cœur, cette vibration qui émane du cœur et qui parle au cœur également. Et ça me semblait tout à fait adéquat pour introduire ce groupe d'aujourd'hui. Bienvenue par la même occasion à tous les frères et sœurs qui nous écoutent à distance et qui sont dès maintenant avec nous dans ce groupe. Puisque énergétiquement, nous sommes déjà ensemble. Le temps n'existe pas. Et nous avons tous rendez-vous dans ce groupe. Voilà, en quelques phrases, je vais introduire ce groupe. Sachant qu'il n'y a pas de boss, à part l'esprit qui nous dirige. À penser, à parler, à nous taire, à être inspiré, à citer une phrase, un passage d'un livre, une séquence de notre vie quotidienne qui pose difficulté ou qui nous amène de l'extase ou n'importe quoi d'autre. Tout est dans le sujet. Il n'y a rien de notre vie quotidienne qui est réellement hors sujet puisque notre vie quotidienne est le tremplin pour se rappeler de l'unité, sortir de la dualité et retrouver notre vraie nature. Donc tout est parlant dans cette pièce de théâtre que nous jouons. Et afin de laisser l'esprit parler et suivre son inspiration, je vais citer 5 phrases qui m'aident à me détendre et à lâcher le contrôle sur ce qui pourra survenir ou ne pas survenir pendant ces 2 heures environ que va durer ce groupe. Et tout à l'heure, il me venait la réflexion, c'est le groupe que j'organise où je suis le plus détendu avant qu'il se passe. J'ai absolument rien à gérer, qu'on soit 2, qu'on soit 10, c'est pareil. Je prépare le yogiti, je prépare la table, et puis j'ai pas à préparer le programme. Ah, je me repose. Voilà. Et avec ces phrases aussi, je peux laisser aller tout désir d'entraîner la conversation, de la diriger vers un sujet particulier. Mais j'accepte de me laisser inspirer à parler de telle ou telle chose. Et ces phrases disent simplement ceci, je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire. car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voilà, beaucoup est dit dans ces cinq phrases, nous pouvons en reparler par la suite, mais d'ores et déjà, la phrase centrale, je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire, parle d'une confiance infinie, absolue. Et à ce sujet, Henri Gougaud disait aussi une très belle phrase, « La confiance, c'est la certitude que rien n'est sûr, mais que tout ira bien. » Ce dont je suis vraiment convaincu. Voilà, je ne sais pas de quoi la prochaine seconde sera faite, et en même temps, j'ai une confiance complète que ce sera parfait si je la laisse se dérouler comme elle l'entend. Et ce n'est pas à moi de fixer comment elle se déroulera, cette seconde-là, ou cette minute, ou cette prochaine heure, ou mes prochains jours. Donc le thème de la réunion d'aujourd'hui, c'est l'amour. Le thème de la réunion de demain, c'est l'amour aussi. Et le thème de la réunion de tous les autres jours, jusqu'au dernier de vos jours, c'est aussi l'amour. Parce qu'en définitive, que nous parlions d'amour ou que nous réagissions avec haine, il s'agit toujours d'amour. Quand je suis dans la haine, je demande l'amour. Et quand j'agis avec amour, j'offre l'amour. Mais quand j'entends quelqu'un qui est agité dans un sentiment de rancune, de haine, je peux soit réagir contre lui en m'opposant, soit entendre son appel à l'amour et tenter de comprendre d'où ça vient, tenter de répondre par la seule réponse possible, par l'amour également, ne serait-ce qu'en pensée. Et la pensée, ça peut être simplement « Oui, je comprends d'où vient ce sentiment de haine. » Pourquoi ? Parce que je l'ai vécu aussi, parce que j'en ai fait l'expérience. La rancune aussi, je comprends. La jalousie, je comprends. L'anxiété, oui, tout ça, je l'ai été. Et j'ai pu le transformer, le regarder différemment. Et maintenant, quand j'entends un sentiment de rancune, j'entends une expérience difficile, je peux ne pas entrer dans ce tourbillon-là et plutôt être compréhensif et puis voir que la personne qui est rancunière, elle a besoin, elle a envie, elle appelle l'amour, elle a envie qu'on l'aime. Et je ne pourrais pas l'aider si je rentre dans ma réactivité, en face de sa réactivité. Je pourrais que m'enfoncer davantage dans la croyance que je ne suis pas aimé et accessoirement l'enfoncer aussi davantage dans sa réactivité. Donc nous sommes dans ce cas-là tous les deux en phase d'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est qu'est-ce que je choisis maintenant ? Est-ce que je choisis l'amour ou est-ce que je choisis la peur ? En définitive, dans toutes les situations qui demandent qui sont basés sur une émotion, je peux, ça se résume en choisir l'amour ou choisir la peur. L'amour avec toutes ses dérivées, ses composantes terrestres, et la peur avec toutes ses dérivées, ses contractions, sachant que les sentiments dérivés de l'amour nous amènent à une expansion de notre cœur, de notre conscience. La bienveillance, la gentillesse, la bonté, la patience, l'indulgence, l'amour humain, voilà. Tout ça est de nature à développer notre réceptivité, à développer notre écoute. Et tout ce qui est sentiment de contraction et de peur a pour effet de minimiser, de réduire notre capacité à être à l'écoute. Même si ce sont des portails pour comprendre des choses. Même si parfois, lors d'une épreuve difficile, tout d'un coup, je suis amené à me poser les vraies questions. Tiens, au fait, pourquoi je suis sur Terre. Tiens, au fait, à quoi elle sert cette expérience, cette claque dans la figure que je viens de recevoir? Ou je peux ne pas me poser la question en disant c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et dans ce cas-là, bah, j'aurai rendez-vous à nouveau dans une autre salle de classe pour apprendre une leçon que je n'ai pas apprise du premier coup. Je redouble. Et l'univers me proposera la même leçon tant qu'elle ne sera pas sue, apprise, et que je n'aurai pas tiré l'enseignement. Et l'univers ne me proposera plus les mêmes situations dérangeantes et difficiles quand la leçon a été apprise et que l'enseignement en a été tiré. Donc, quand je vis des situations répétitives, je peux me demander quelle leçon j'ai pas encore apprise à propos de ça. Quand je quitte un partenaire amoureux à répétition, ou quand je suis quitté aussi à répétition et peut-être aussi pour les mêmes raisons, ou comment je choisis toujours le même type de partenaire amoureux qui correspond à une partie de moi que j'ai envie de faire évoluer ou de guérir ou même d'expérimenter la félicité avec ça. Il n'y a pas que des épreuves pour apprendre, hein, et la souffrance n'est pas obligatoire. Hein, sauf que par moment, la souffrance peut nous amener à redevenir humble. L'humilité, c'est avoir une coupe qui est vide, comme ce bol de cristal. Si ma coupe est déjà pleine parce que je sais des tas de choses, aucun enseignement ne peut se déverser parce qu'il n'y a plus la place. Aucune vérité ne peut me mettre à prise parce que je sais déjà tout. Donc accepter de dire « je ne sais pas », c'est vider sa coupe et la préparer l'espace dans lequel l'enseignement va se déverser. C'est pour ça que aujourd'hui la phrase « je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire », c'est « je n'ai aucune idée de comment va se dérouler cet après-midi ». Et en même temps, je sais qu'elle sera parfaite, quoi qu'il puisse être dit. Parfois, dans ces groupes, il y a eu des réactions quasi violentes de personnes, des jugements, des éclats de voix, des portes qui claquent. Voilà, et cela aussi est parfait. Et cela aussi est parfait. C'est une occasion, comme dirait Gary Renard, c'est un Jaffo. Un Jaffo, c'est « just another forgiveness opportunity ». Juste une autre occasion de pardonner. Chaque fois que je réagis, chaque fois que je me sens blessé par un jugement, c'est un jaffo. Hein, c'est une occasion de regarder autrement la situation. Et c'est pas un hasard si j'ai tiré dans le petit panier le titre de la leçon 33. Dites 33. Il y a une autre façon de regarder le monde. Voilà, à chaque fois que je me sens blessé par quelqu'un, il y a une autre façon de le regarder et la façon d'en sortir en gardant mes vibrations originelles d'amour, c'est d'utiliser le vrai pardon, tel que nous l'enseigne en particulier un cours en miracle, mais d'autres également. J'ai devant moi l'Évangile selon Jésus. Un livre qui me touche beaucoup, de Paul Ferrini, qui parle aussi beaucoup du vrai pardon. Alors je prends le soin de dire vrai pardon, parce qu'il y a le pardon social, le pardon de l'ego ou du monde, qui n'a pas beaucoup à voir, sinon rien, avec le vrai pardon, qui est regarder les choses différemment. Et le pardon du monde implique une supériorité et une infériorité. Moi, je suis tellement évolué, tellement grand, et tellement je sais tellement de choses que je daigne pardonner ta faiblesse dans ma magnanimité. Et donc, ça fait un rapport de domination, hein, d'une certaine manière. Alors que le pardon véritable reconnaît que ce que je pensais que tu m'avais fait ne s'est en vérité pas produit. parce que nous jouons des rôles, hein, et que nous ne sommes pas ces corps que nous croyons être, et la réalité n'est pas cette réalité que nous croyons vivre. Même si, de but en blanc, c'est une phrase qui peut être difficile à entendre pour quelqu'un qui ne connaît pas cet univers de la non-dualité. Donc tout se passe dans cette réalité terrestre comme un champ d'expérience pour choisir l'amour ou choisir la peur. Et lorsque je ne pardonne pas, j'ai choisi la peur, j'ai choisi ma réactivité, j'ai choisi d'attaquer ou j'ai choisi de me défendre, ce qui revient au même. C'est-à-dire que je me sens vulnérable, donc je dois attaquer pour me sentir fort ou je dois me défendre pour me protéger, mais c'est la même chose. Ça vient toujours de « je me sens vulnérable ». Voilà, et il y a un mantra « Ajay Alay hein, » qui cite plein de qualités divines, entre autres, c'est « invulnérable »,« indestructible ». Voilà, il y a plein. C'est un mantra puissant parce que le réciter revient à reconnaître que nous sommes ça. Nous sommes indestructibles, nous sommes invulnérables, nous sommes inchangeables, nous sommes éternels. Oui ? Oui. Tu veux les dire ?
Invincible.
Oui, tu vas en dire d'autres. Voilà, invincible. Voilà, nous sommes Dieu, hein, mais nous jouons à nous croire limités, nous jouons à nous croire petits pour encore un temps qui s'achèvera lorsque nous aurons assez joué. Certains disent que c'est bientôt. Moi, je peux dire, nous verrons bien. Et nous pouvons rire de cette expectative joyeuse. Et comme j'organise une réunion ce jour-là, tant attendue, du 21 décembre 2012, il m'était venu hier ou aujourd'hui de l'appeler une fête du début du monde. Pour symboliser que lorsqu'un cycle se termine, un autre cycle commence tout simplement. Et que plutôt que de se focaliser sur la fin, nous pouvons redémarrer. Moi je disais hier dans le groupe que j'ai animé, on fait un reset, hein, on reboot l'ordinateur. On appuie sur le bouton de redémarrage et on redémarre le cycle pour voir ce que ça donne. Un autre cycle, peut-être. Voilà, et puis nous pouvons élargir certains thèmes, certaines directions qui sont reprises de temps en temps. Par exemple, choisir d'être heureux plutôt que d'avoir raison. Le sens du mot Dieu, hein, quand il est employé dans la non-dualité, pouvoir comprendre à quoi sert le scénario de notre vie humaine sur Terre, pouvoir aussi apprivoiser l'ego pour le remettre à notre service en tant que celui qui gère le corps, mais qui ne s'occupe pas de l'esprit, ou ne s'occupe pas d'aimer, parce que c'est pas son domaine. Comme j'ai écrit dans mon invitation, nous avons bien joué avec l'ego, merci l'ego, je peux le remettre dans sa boîte, c'est le jeu de l'ego, et lui dire que ton contrat n'est pas renouvelé. Tu avais un CDD, c'est la durée déterminée, mais n'est pas déterminée dans le rôle du tyran. Hein. Tu peux rester comme un chien docile que j'ai apprivoisé, qui ne va plus à chaque intrusion de quelqu'un montrer les crocs, se précipiter pour me défendre ou pour attaquer, ce qui est la même chose. Mais il va m'aider à organiser avec amour, à gérer avec amour. Parce que c'est son domaine, organiser, gérer, analyser avec amour. Voilà, je peux faire des choses qui sont de l'ordre de simplement ma condition humaine. Je peux les faire en tant qu'être divin, en m'aidant de l'ego dans ma réalité de tous les jours, mais d'un ego qui n'est pas surdimensionné, mais à sa place, à sa vraie place, comme un dragon qui est amical et qui se couche à mes pieds, hein, qui ne crache plus le feu. Parce qu'il semblerait que les dragons, à part dans les légendes effrayantes, sont des êtres très amicaux, qui sont là vraiment pour nous aider, hein, dans nos expériences. Voilà, on pourra aussi dire, développer le fait que le monde subtil, qu'on peut appeler notre âme, nos guides, le Saint-Esprit, Dieu, est à nos côtés en permanence, que nous le ressentions ou pas, que nous le voyions ou pas, que nous l'entendions ou pas, pour nous apporter de l'aide. Encore faut-il que notre libre arbitre nous dise de la demander, cette aide. Parce que je peux aussi ne pas vouloir d'aide, et cela aussi est honoré. Oui, oui, non merci, je vais m'en sortir tout seul. Hein. Je sais gérer, oui quoi, on m'attaque, oui, ok. Je n'ai pas besoin d'aide, merci. Voilà, c'est un rôle que joue très bien l'ego. Je peux me débrouiller tout seul. Je suis Dieu à la place de Dieu. Hein. C'est-à-dire que j'ai mon univers, et je ne laisse pas entrer Dieu dans cet univers. Je ne laisse pas entrer l'aide extérieure. Je vis en cercle fermé. Donc si je demande de l'aide, c'est humblement, en reconnaissant simplement que cette situation-là, momentanément, me dépasse la compréhension que je peux en avoir avec l'aspect limité de ma vie terrestre, des limites que j'ai choisi d'épouser, bien sûr, que depuis l'ego que je vis, que j'incarne, j'ai pas de solution. Ou j'ai des solutions bancales, boiteuses, qui font 3 mètres et qui s'écroulent. Et ensuite, je dois trouver autre chose et ça ne fonctionne pas très longtemps. Si je pense que c'est l'argent dont il me faut, voilà, je vais être heureux pendant un temps, je vais me sentir puissant, illimité. Mais l'argent que j'ai n'est pas illimité. Hein. Je vais peut-être tout dépenser, je vais peut-être me ruiner, je vais peut-être être inconsidéré dans mes dépenses. Et finalement, bien des millionnaires qui ont beaucoup d'argent sont très malheureux à l'intérieur. Certains gagnent au loto, se suicident parce qu'ils n'ont pas trouvé que c'était... ce qu'ils recherchaient au fond de leur être, ce n'est pas ce bonheur matériel. C'est quelque chose d'ineffable, de bien plus grand, qui n'est pas temporaire, mais qui est permanent. Voilà, et puis je peux essayer de bricoler les choses avec l'ego, je peux essayer d'aimer avec des conditions, mais dès que je pose une condition, un jour ou l'autre, la condition ne sera pas remplie, et je vais dire... Ah oui, mais non. Ah oui, mais pas comme ça. Non, là, ça va pas. Là, je t'aime plus. Là, tu peux tout faire, mais pas ça. Et à ce moment-là, le bonheur s'écroule parce que la condition n'a pas été remplie. Donc, c'est l'amour humain qui est basé sur l'ego et qui dit « je t'aime si ». 3 petits points. Et chacun peut remplir ses propres conditions et puis la liste peut être très longue. Hein. Et les conditions... pour vraiment aimer, commence à être très réduite. Voilà, et pour parler de ce qui n'est pas l'ego, nous employons la plupart du temps seulement 2 mots qui sont censés résumer toute vérité existante. C'est quand même un super résumé. Et ces 2 mots, c'est Dieu est. Dieu est, dans le sens profond de Dieu est tout ce qui est. Dieu est la totalité de l'existence. Dieu, ou la source, ou l'univers, ou mon moi supérieur, ou la totalité de l'existence, comme moi j'aime bien le dire, le résumer. tout ce qui existe, c'est-à-dire que rien à part Dieu n'existe dans la non-dualité. Rien à part cette source de tout ce qui est. Et nous sommes l'extension d'amour de cette source, incluse dans la source. Une source d'amour qui grandit tout le temps, en permanence, et nous sommes ce fils issu du Père, un langage tout à fait symbolique qu'emploie un courant miracle, pour dire simplement, il y a toujours plus d'amour, et nous sommes la création de l'amour lui-même, et l'extension de l'amour lui-même, et nous héritons de ses capacités à créer davantage, et à engendrer aussi nos propres créations. Sauf que nous ne pouvons rien faire concernant notre propre création. Nous ne pouvons pas, ainsi qu'un fils qui est né d'un père, décréer le père, par exemple, ou décréer nous-mêmes. Puisque ce n'est pas de notre ressort de nous avoir créés. Nous sommes la création du père et nous avons aussi nos propres créations et ainsi à l'infini. Voilà pour Dieu est. Il est facile de continuer en disant si Dieu est la totalité de l'existence, Dieu est pur accueil. Dieu ne peut jamais juger puisqu'il n'y a rien en dehors à juger. Il n'y a rien en dehors de Dieu et le jugement suppose quelqu'un en face à juger un adversaire, un opposant. Et à quoi Dieu pourrait bien s'opposer dans l'unité? Vous voyez que la phrase est absurde en elle-même. Comme la phrase de l'ego qui pose cette question sans réponse, comment l'impossible s'est-il produit? Si c'est impossible, ça ne s'est pas produit. En parlant de la séparation. La séparation illusoire d'avec Dieu que nous semblons vivre. Nous semblons être séparés de Dieu et notre esprit semble divisé entre ego et réalité, entre illusion et réalité, entre ego et Dieu. Voilà, et il y a simplement deux niveaux de perception. Nous pouvons parler du niveau de perception de l'unité dans lequel Dieu est et il n'y a rien d'autre, et nous sommes inclus. Dans ce monde-là, aucune séparation n'existe et nous sommes la totalité de l'existence au même titre que tous les humains et Dieu et tout ce qui vit, tout ce qui existe. Et le deuxième niveau de perception, c'est celui auquel nous avons voulu croire pour faire l'expérience de répondre à la question « Et si nous n'étions pas divins, que se passerait-il ? » Bien sûr, la question est absurde puisque nous sommes divins. Et si les choses n'étaient pas ce qu'elles sont? Mais les choses sont ce qu'elles sont. Il est impossible que les choses ne soient pas ce qu'elles sont, puisque c'est contenu dans la question, la réponse. Alors nous avons inventé la séparation en esprit, dans notre rêve. Nous avons apparemment divisé notre esprit entre esprit juste et esprit faux, et nous avons centré nos pensées sur l'esprit faux pour croire que c'est réel, et nous avons en quelque sorte, créer des décors, une scène, un scénario, un film, un générique, des sous-titres, tout, de toutes pièces, pour faire en sorte d'expérimenter quelque chose de limité, alors que nous vivons en tant qu'esprit pur, issu de Dieu, dans l'illimité et dans l'amour sans opposé. Tout ça a un but, la dualité a un but, et en même temps, l'expérience, nous la vivons, nous la ressentons, elle est perçue. La perception n'est jamais niée. Quand je soulève cette tasse, je perçois bien qu'elle se soulève. Et quand je la repose, c'est pareil. Je sens que cette table est solide. C'est une perception, ce qui ne veut pas dire que c'est réel. C'est perçu. Voilà. Et donc, nous percevons, l'expérience a un but et finalement, ce n'est pas l'illusion tant que l'expérience de l'illusion qui va nous servir à quelque chose. Donc même si c'est illusoire, ça a un sens pour nous d'avoir rêvé de ce monde, d'avoir tiré sur l'élastique pour en apparence sortir de l'amour, sortir de l'univers de l'amour, pour relâcher l'élastique et replonger joyeusement dedans lorsque cette expérience a assez duré. Voilà pour quelques sujets d'introduction. Voilà. N'hésitez pas à introduire des aspects de la vie courante, mais tout paragraphe d'un livre, tout passage d'un livre qui vous parle est le bienvenu également, ainsi que tout moment de silence dans lequel il y a aussi un dialogue entre nous au niveau subtil. J'ai parlé.
Comment se fait-il que ce dont nous parlons ici et ce dont ce qu'Avi vient d'évoquer, la non-dualité, le fait que tout est un, comment se fait-il que cela touche apparemment, dans l'apparence, si peu de personnes? Vous êtes là en train d'écouter cet enregistrement, nous sommes ici autour d'une table à partager. Et nous savons très bien que on sort dehors, on va dans les cafés, on va dans notre famille, on écoute les conversations, les coups de téléphone, les sujets qui sont évoqués. Et effectivement, c'est dérisoire par rapport à ce que nous partageons ici. Ça, c'est bien clair. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Sans cesse, nous avons des frères et des sœurs proches de nous qui nous disent, par exemple, ou qui vous disent à vous, ben, ça me parle, ça, mais là où je vis, dans mon milieu professionnel, dans ma famille, dans mes relations, dans ma vie quotidienne, j'ai l'impression d'être seul, isolé. C'est vrai que souvent, on a aussi des témoignages où c'est le contraire, c'est drôle, les gens s'ouvrent plus. J'ai été surpris d'avoir des ouvertures inattendues à ces notions non duelles, à ces notions d'amour inconditionnel, d'ouverture de cœur, de guérison, d'intuition, de guidance, d'écoute profonde, de lâcher prise, de nouveaux regards. Alors pourquoi? Eh bien justement, c'est parce que sur cette planète, là, et nous sommes à quelques jours du 21 décembre 2012, qui est une date charnière, une date, c'est pas en soi la journée du 21 qui va être spectaculaire, mais c'est un énorme cycle, et avec un nouveau départ, disons quelque chose d'inconnu, du jamais vu dans cette galaxie. Tous les messages, beaucoup de messages que nous recevons d'autres mondes, d'autres dimensions, mentionnent ce fait avec passion. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il une telle passion? Ben justement, c'est parce que c'est pas évident. C'est pas évident à cause du jeu incroyable qui a été joué sur cette planète, qui est un jeu où le libre arbitre a été donné à un niveau encore jamais autorisé, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas qui autorise, on n'a pas les mots pour le dire. Mais enfin bon, on emploie ces mots-là, c'est aussi des mots qui nous viennent comme ça, dans des informations provenant d'autres dimensions. Ce libre arbitre, ce jeu incroyable qui a été autorisé sur cette planète depuis sa création, c'était prévu depuis le départ, un départ dans un temps qui n'existe pas, mais qui semble exister. On parle de 14-15 milliards d'années. Ce libre arbitre a été autorisé à un degré jamais autorisé dans cette galaxie. C'est une information qui vient, cette galaxie, peut-être dans d'autres galaxies, mais déjà une galaxie, la nôtre, c'est 240 milliards de soleils, c'est-à-dire d'étoiles. Donc des planètes innombrables, des civilisations, des sociétés, des êtres extrêmement divers, beaucoup d'humanoïdes. Et nous n'avons même aucune idée, on ne peut pas l'appréhender, on ne peut même pas l'imaginer. Mais nous nous retrouvons ici 7 milliards, encore une fois, avec une expérience commune, c'est celle du corps physique humain. Du corps physique humain sur cette planète Terre. Il y a d'autres êtres humains aussi sur d'autres planètes, dans d'autres mondes, dans des vaisseaux spatiaux, etc. Mais nous parlons bien ici de notre expérience qui est ce à quoi nous avons accès. Et les 7 milliards que nous sommes ont accès à la même expérience. Elle est diverse pour chacun, bien sûr, mais... Et tout part de là. Alors pourquoi est-ce que nous sommes peu nombreux à nous ouvrir vraiment consciemment à d'autres dimensions, d'autres réalités qui font pratiquement peur à tout le monde? On nous parle de 144 000, 260 000, on nous parle de... Mais qu'est-ce que c'est que 144 000 qui, par rapport à 7 milliards? C'est un tout, tout petit pourcentage. On nous parle aussi de plusieurs millions d'êtres qui sont venus s'incarner en provenant d'autres dimensions, qui ne sont pas terrestres, mais qui viennent d'autres mondes. Mais quelques millions, c'est encore très peu. Un 0,5% par rapport à 7 milliards, c'est 35 millions déjà. Donc... Il n'est pas nié, le fait n'est pas nié que ce dont nous parlons ici, c'est encore quelque chose d'ésotérique, c'est-à-dire de fermé, quelque chose qui fait encore peur à beaucoup. Ce n'est pas nié dans tous les messages que nous recevons. Pourquoi? Encore une fois, c'est à cause de cette expérience exceptionnelle qui est sur cette planète, où le libre arbitre a été autorisé à un degré inimaginable. Ça peut nous aider. Parce que c'est évident que quand nous sommes dans un groupe comme ici, quand nous nous retrouvons entre non-dualistes, vous comprenez ce que je veux dire, ça veut dire quelque part nous entendons de cœur à cœur, nous comprenons. Ok, ça paraît facile. Et puis nous voilà deux, trois jours après, dans des situations concrètes, dans notre vie professionnelle, familiale, sociale. Et là, on a l'impression d'avoir des murs devant nous. Ça passe pas. Il y a des peurs partout. On parle d'avoir confiance, une confiance illimitée, qu'il y a des guérisons prévues, mais c'est inimaginable, il peut y avoir des rajeunissements, même des membres qui vont repousser. On nous parle de choses qui semblent, qui nous touchent quelque part, mais qui semblent complètement inaccessibles et totalement utopiques pour la quasi-totalité de nos frères et sœurs. Que ce soit bien clair, c'est bien ça. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire ou pas faire? Parce que, qu'on le veuille ou non, chacun d'entre nous, nous sommes dans notre réalité qui est bien propre à nous. C'est-à-dire que nous avons chacun un chemin, je dirais, hautement individualisé. Chacun a son expérience particulière. Alors, nous recevons l'information que... Et puis nous commençons à l'expérimenter davantage avec des synchronicités, avec des choses inattendues, des miracles, des choses qui se passent qu'on ne peut pas nier. Nous expérimentons de plus en plus une certaine unité des choses, comme s'il y a un plan divin qui se déroule. Eh bien oui, effectivement il y a un plan divin où chaque brin d'herbe, chaque atome, chacun d'entre nous est parfaitement à sa place, parfaitement guidé, d'instant en instant, où il n'y a aucun hasard et aucune erreur. Et c'est un plan d'amour. On dit très bien. Puis voilà que les États-Unis, en ce moment, sont un cycle monde, sont traumatisés par un massacre dans une école, par exemple, avec 27 personnes tuées. Alors évidemment, on voit que c'est émotionnel. Parce que des morts, il y en a tous les jours, des millions et des millions, puisque des corps s'arrêtent, d'autres corps naissent. Il y a des maladies, il y a des assassinats, il y a encore des guerres, il y a des exactions. Et donc des morts par violence, il y en a tous les jours, je ne sais combien. Et puis il y en a 27 là qui font un émoi sur la planète. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne par coup émotionnel, et tout a son sens, il y a des raisons. Ça suppose quoi? Ça suppose la croyance qu'on est le corps physique, ça suppose la croyance que la mort existe, ça suppose la croyance que le danger existe, que les limites existent, et ça suppose la croyance que nous ne sommes pas qui nous sommes. Et c'est très bien fait, cette illusion, d'avoir l'impression de ne pas être qui nous sommes. C'est justement ce que nous avons choisi. Le corps physique est fait pour ça. Comme dit le courant miracle, les yeux du corps sont faits pour ne pas voir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les yeux du corps sont faits pour ne pas voir. Ça veut dire les yeux du corps sont faits pour ne pas voir ce qui est la réalité et l'unité de toute chose. Qu'est-ce que c'est que les yeux du corps? C'est un système où on s'imagine d'un corps physique, donc avoir des yeux pour regarder à l'extérieur, donc on a imaginé un extérieur, en s'isolant dans un intérieur qui réduit un petit corps humain, masculin ou féminin, avec des yeux pour regarder à l'extérieur. Donc ça suppose un extérieur, ça suppose quelque chose qui est perçu, un percevant, qui est dans un corps physique, et puis ce qui n'est pas lui, c'est ce qui est extérieur, c'est ce qui est perçu. Et par définition, le percevant n'est pas le perçu. Et voilà, on baigne dedans, on ne se rend même pas compte, tellement c'est évident, voilà notre réalité apparente. Et pour la quasi-totalité de nos frères et sœurs, c'est bien réel. Et puis en même temps, il y a même une violence pour l'affirmer en disant, attendez-vous, vous dites que ce n'est pas réel, moi je vais vous donner un coup de poing dans la figure, vous allez voir si ce n'est pas réel. Et puis si vous n'êtes pas content, je vais vous mettre sur un bûcher, je vais vous brûler, vous allez voir si ce n'est pas réel. Donc, l'illusion est très très bien faite. Encore une fois, elle est bien faite, elle est faite d'une manière extraordinaire, et on n'avait jamais été à un tel degré d'illusion dans cette galaxie. C'est pour ça que tant d'êtres de l'univers se passionnent pour notre expérience terrestre. Alors on peut dire, mais à quoi ce que tu nous dis là, Sylvain, c'est bien, mais comment est-ce que ça peut m'aider dans ma vie quotidienne, dans ma vie, moi? Mais moi, ça m'aide énormément, parce que déjà, j'admets que je ne vois rien, que je ne sais rien, que je me suis plongé dans une illusion formidable, remarquablement faite, où j'ai vraiment l'impression d'être victime, où j'ai vraiment l'impression de manquer, d'avoir des choses à faire que je ne peux pas faire, d'avoir des comptes à rendre à ma famille, dans mon milieu professionnel, avoir tout le temps cette sensation d'échec, d'insuffisance. Ça me semble bien réel, bien sûr, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès de choisir ce jeu de la séparation, de l'imaginer. Et non seulement j'ai fait exprès, mais tous mes frères et sœurs ont fait exprès. Et donc nous jouons une pièce de théâtre où nous sommes 7 milliards à avoir décidé à l'origine du jeu, y compris ceux qui assassinent les autres, les assassins et les assassinés. C'est le même jeu. C'est un jeu de croyance. Et effectivement, la mort paraît bien réelle, mais la mort de quoi? L'arrêt d'un corps. Mais des corps, on en a déjà eu plein, on est revenu. Mais on a oublié et nous voilà dans ce que nous appelons l'instant présent, avec l'illusion d'être un corps physique qui va mourir. Donc on est toujours face à sa mort. Or, la mort n'existe pas. Mais l'illusion est tellement bien faite qu'on a vraiment l'impression qu'on va mourir. Et que nos frères et sœurs vont mourir, à tel point que si j'ai un proche qui décède, c'est-à-dire si le corps s'arrête, je vais me sentir extrêmement triste, probablement, avoir une certaine émotion, avoir quelque chose à vivre, une leçon à apprendre. Qu'est-ce que c'est que cette leçon à apprendre dont on nous parle tout le temps? C'est une leçon de paix, c'est une leçon de bien-être. C'est une leçon de présence dans l'instant. Et vous pouvez remarquer que, au moment où je me refocalise dessus, le débit même de mon discours ralentit. ma respiration se fait plus calme. Vous comprenez que c'est très pratique ce dont nous parlons. Et que on nous dit qu'on est sans cesse en travail, en apprentissage. Mais quel est cet apprentissage? Quel est ce travail? C'est un lâcher-prise d'illusion qui se fait à son rythme. On ne peut pas l'accélérer. Et pourtant, on peut l'accélérer, c'est les deux. On ne peut pas le ralentir et pourtant on peut le ralentir. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la notion d'accélération et de ralentissement, elle est utilisée dans le jeu J-E-U, et que nous sommes sans cesse invités à lâcher prise, à avoir confiance, à nous recentrer, à poser les armes. Très bien. Nous ressentons que ça a un sens, et puis on s'aperçoit que certains d'entre nous ne posent pas les armes, ou semblent ne pas les poser les armes. Certains semblent avoir beaucoup plus de mal que d'autres à se recentrer. Alors on peut dire, mais c'est pas quoi. Et c'est là qu'arrive le pardon. Le pardon, c'est le jeu est joué, il est joué d'une manière globale. La mort n'existe pas, le manque n'existe pas, l'ignorance n'existe pas, le sommeil même n'existe pas. Et tout à l'heure, Avi nous parlait du pardon en disant que finalement ce que semble m'avoir fait mon frère ou ma sœur, en réalité ne s'est pas produit. Alors là, c'est énorme, évidemment, dire que ça ne s'est pas produit. Par exemple, 27 personnes, 27 corps qui s'arrêtent de vie dans une école aux États-Unis, ça ne s'est pas produit. Effectivement, il s'est produit apparemment 27 corps qui sont arrêtés de vivre. Oui, c'est exact. Mais c'est un rêve, cela. C'est une pièce de théâtre. Ce n'est pas réel. Mais c'est fait pour sembler réel. Et donc ça semble réel encore à une grosse, grosse majorité des 7 milliards que nous sommes. Et c'est là que nous commençons à comprendre et à assumer notre rôle, qui est un rôle un peu de pionnier. Et oui, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on parle de travailleurs de lumière. Nous sommes un certain nombre à être un petit peu plus en avance, apparemment. On n'y peut rien, c'est comme ça. On n'a aucun mérite. C'est simplement un processus global dans lequel des individus semblent être un peu plus avancés que d'autres. Et ces individus qui semblent être un peu plus avancés que d'autres, c'est vous qui êtes en train d'écouter ces paroles, parce que vous ne seriez pas là en train d'écouter cet enregistrement si vous n'aviez pas cette fonction maintenant. Donc c'est très pratique. Et le fait de le partager entre nous, eh bien ça nous aide à ce que ça soit plus vivant, plus concret, plus réel. Et qu'est-ce que c'est qu'un partage? C'est de l'amour. C'est « je reconnais ». Je reconnais mon rôle, je reconnais ton rôle. Je reconnais aussi le rôle de tous mes frères et sœurs, quels qu'ils soient sur cette planète. Je reconnais aussi qu'il y a des rôles apparemment plus avancés que d'autres. Donc, je reconnais et disons, j'accueille totalement le plan divin, dans sa globalité, dans sa perfection. Et c'est ça le vrai pardon. Tout va bien. Tout va bien. Ce n'est qu'une question de regard intérieur. Et le regard des autres, très bien, c'est le regard des autres. Mais finalement, je suis toujours face à moi-même et à mon regard intérieur, et c'est là que ça se passe. Donc pour chacun d'entre nous, c'est à l'intérieur que ça se passe, c'est pas à l'extérieur, jamais. Ça semble être à l'extérieur. On semble victime de l'extérieur, menacé par l'extérieur, avoir des choses à faire, des comptes à rendre, à être un bon citoyen, un bon fils de famille, un bon père de famille, etc., ou un bon employé à son boulot, ou un bon patron, tout ce que vous voulez. Très bien. C'est une illusion. La seule chose à laquelle je sois appelé, c'est l'appel de mon cœur qui est un appel à l'amour. Vraiment un amour incroyable qui est ce qui est. C'est un amour, un appel à la vie, un appel à accueillir la vie. comme dit le cours en miracle, est-ce que je veux ce que j'ai nié parce que c'est la vérité? Et j'ai nié l'unité de toute chose, j'ai nié l'amour qui est la seule chose qui soit. Est-ce que je veux cela? Je l'ai nié en venant m'incarner ici, j'ai joué ce jeu de la séparation. Ça n'a rien de mal, je le reconnais. Il est même essentiel que je l'assume totalement, ce jeu. Mais maintenant, est-ce que je veux continuer ce jeu de la séparation, encore donner une réalité au doute, à la culpabilité, à la peur? Ou est-ce que je veux m'ouvrir à cet amour incroyable que nous sommes tous, à cette plénitude divine, Dieu et tout ce qu'il y a, il n'y a que Dieu? Et donc c'est très concret. Et c'est maintenant que ça se passe, c'est toujours à l'instant présent. Et donc, si vous êtes en train d'entendre ces paroles, vous pouvez vraiment vous dire, mais est-ce que c'est ça que je veux maintenant? Ce que peut raconter Sylvain, c'est très bien, mais est-ce que ça fait appel à quelque chose dans mon cœur maintenant? Est-ce que c'est vivant pour moi maintenant? Qu'est-ce que je veux vraiment? La réponse va venir très vite. Si on regarde bien, c'est pas de l'argent, c'est pas des relations. Ce que je veux, c'est la paix, c'est être bien, c'est le bonheur, c'est tout. L'illusion de l'incarnation terrestre, c'est que le bonheur va venir de l'extérieur, puisque je semble être victime de l'extérieur. Et c'est ça la grande illusion. Elle est très bien faite, donc elle semble bien réelle. Seulement ça ne marche pas. Et c'est pour ça que notre mal-être, notre culpabilité même, nos doutes, nos peurs, sont comme des phares qui nous ramènent en disant « Est-ce que c'est ça que tu veux ?» Tu veux rester dans le doute, tu veux rester dans la peur, dans le mal-être, dans la culpabilité profonde? Oui, mais écoutez, c'est partout. Même regardez les religions, même nous enseignent ça, je suis pécheur, il faut aller à la confesse, il faut, c'est ça, Dieu nous demande des comptes, est-ce que... Oui, d'accord, c'est vrai. C'est vrai, oui, c'est comme ça que ça se passe apparemment. Regarde bien. Est-ce que ça te satisfait? Est-ce que tu veux toujours rentrer dans le moule dans lequel on t'a fait rentrer depuis ta tendre enfance? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne pour toi? Qu'est-ce que ton cœur te dit à ce sujet, là, maintenant? Et c'est en toi qu'il y a les réponses. Parce que si Dieu est tout ce qui est, et si tu es là à dire « j'existe, je vis », et ça vient d'où ça? C'est la vie, tu es la vie, nous sommes la vie. Et la vie est amour, elle est plénitude, elle est être-té, elle est éternelle, elle est maintenant. Donc c'est très pratique. Ça passe par effectivement un silence. Ça passe par vraiment « je ne sais pas ». Et nous constatons les uns les autres que nous sommes amenés de plus en plus à des silences, comme des arrêts sur image. J'aime bien ce terme cinématographique. Il y a comme... on s'arrête. Même dans la rue, on marche, on s'arrête. On est dans un magasin en train de faire ses courses, on cherche, tout d'un coup on s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'idée que je ne vais pas trouver ce que je cherche. Est-ce que c'est important? Je m'arrête. Je ressens les êtres qui sont là, les frères et sœurs qui font leurs courses à côté de moi dans ce magasin. Je suis à mon travail, je m'arrête. Je lève les yeux sur la personne à côté de moi ou en face ou dans la pièce à côté, je vais la voir. Et là, simplement quelques secondes, je suis en écoute, en présence. Et je suis de plus en plus en présence. Je me lève le matin ou je me réveille au milieu de la nuit et qu'est-ce que je fais là? J'observe un certain état d'âme, je veux dire une certaine émotion, je peux me sentir triste, avec des choses à faire ou angoissé ou au contraire en paix. J'observe et je fais un arrêt sur image, j'arrête. et j'écoute. Et comme nous sommes amour et rien qu'amour, l'amour ne peut manquer de parler. Bien sûr, ça ne sera probablement pas avec des mots, mais ça sera avec quelque chose qui va me toucher, qui va me parler au plus profond de moi. Quelque chose que je ne vais pas avoir à vérifier à l'extérieur. Quelque chose qui me nourrit. Là, maintenant, tout de suite. Et je reprends conscience de cette planète bleue sur laquelle je suis. Sur laquelle je suis. Avec ces 7 milliards de frères et sœurs qui tournoient partout dans les voitures, des transports en commun, qui vont au travail, qui font des enfants, des familles, des logements, etc. Des repas. Je suis dans ce silence d'accueil. Et j'écoute. Tôt ou tard, je vais commencer à ressentir une certaine joie, quelque chose qui peut prendre du temps pour venir, au contraire, être très spontané, très immédiat. Mais je ne cherche pas à le provoquer. Je multiplie simplement ces arrêts sur image. Ces arrêts sur image sont simplement une matérialisation de ma nouvelle intention. Là, en ce... cette fin de cycle, là, en ce 21 décembre qui arrive, ce 21 décembre 2012 qui est déjà là, et puis ensuite l'après 21 décembre, où vraiment il y a un virage à 180 degrés, il y a une nouvelle orientation profonde, qui est une orientation amoureuse. C'est une orientation de présence, là, maintenant. Et c'est très concret, hein, ça me concerne moi dans ma vie. Alors, par exemple, là je suis en train de voir Sylvain qui parle devant son micro. Mais ceux qui sont autour de la table et ceux qui écoutent cet enregistrement, que sont-ils pour Sylvain ? Ce sont des soleils, car je peux simplement décider de voir le soleil qui sont, la lumière qui sont. Et à ce moment-là, je deviens lune, c'est-à-dire que mon rôle de lune, c'est-à-dire d'accueil de la magnificence de l'autre, me permet de refléter cette magnificence. Et à ce moment-là, je deviens soleil pour les autres. C'est ainsi que nous sommes les uns pour les autres des lunes-soleils, vous comprenez, par nos relations amoureuses. C'est très concret. Et le passé ne grève pas cela. C'est-à-dire que, à tout instant, je peux décider cela. Je pars à zéro. Je repars à zéro. Je repars dans le neuf, l'inconnu, le nouveau. Qui est de l'amour, qui est une potentialité infinie, potentialité de guérison, de miracle, de joie, de bonheur. Ma relation, ou mes relations, parce que c'est la même chose, deviennent effectivement des relations amoureuses. Je ne cherche pas à vérifier, à savoir ce que j'ai fait hier ou avant-hier, ou l'année dernière. Et si j'ai des pensées par rapport à ce que j'ai pu vivre comme relation, hier, avant-hier, ou l'année dernière, ou même avant, ou même dans d'autres vies, je peux instantanément tout laisser être guéri maintenant, par cette décision amoureuse maintenant. car l'amour que nous sommes ne connaît pas le temps et l'espace et n'a pas de limite. Le premier principe des miracles, dans un cours en miracles, juste après la courte introduction, c'est « Il n'y a pas de degré de difficulté dans les miracles. L'un n'est pas plus difficile ou plus dur qu'un autre. Tous sont c'est l'expression d'amour maximal. Un miracle, c'est une illusion dans votre rêve. Seulement, c'est un reflet. C'est un reflet d'un changement de perception. C'est une autre façon de voir qui entraîne des manifestations différentes dans le rêve, dans l'illusion. Au ciel, il n'y a pas de miracle. Il y a immanence. Au ciel, il n'y a pas de relation. Il y a immanence aussi. Mais ici, dans cet univers, et en particulier sur cette planète, il y a des relations qui sont un cadeau, qui sont notre trésor le plus précieux, qui nous permettent d'être des lunes soleil les uns pour les autres. C'est très, très concret. Et c'est la porte d'accès vers le bonheur que nous recherchons tous, ce qui est la moindre des choses.
Devenir lune-soleil, c'est nous permettre d'accéder aux dimensions supérieures. Et en fait, il n'y a rien besoin de décider. Il n'y a même pas, je trouve, de questions à se poser comme « qu'est-ce que je veux ?» Parce que ce qui doit se faire, se fait. Quand l'appel est là, il se manifeste d'une manière ou d'une autre, parfois avec plus d'insistance. Et il suffit de devenir son être-té, de lâcher prise. Quand l'appel est là, il suffit de répondre présent. Rien à faire que de goûter un peu plus à cet instant présent qui nous invite à l'écoute. L'arrêt sur l'image, effectivement. Et qui fait que progressivement, d'un arrêt sur image à un autre arrêt sur image, eh bien, ça devient un grand arrêt sur image. Alors, on peut continuer à faire les choses. Continuer de travailler. Continuer d'être sollicité dans sa vie familiale. Ça, c'est rien. C'est juste apprendre un métier, c'est juste un apprentissage. après, c'est répondre à des mécanismes. Être à chaque instant. Ça se fait tout seul, tout doucement. Justement, il n'y a rien besoin de faire. Surtout ne rien faire. Accepter de ne plus rien faire. S'arrêter. Arrêt sur l'image. Pour constater que c'est une image. C'est le début du réveil qui conduit à l'éveil. On ne connaît pas le plan divin. Accepter de ne pas comprendre, mais d'être guidé comme un pion sur un jeu d'échecs. Où il n'y a qu'une chose qui gagne, c'est l'amour. C'est vrai que lorsqu'on ne sait pas, on peut voir les choses différemment, comme cette tragédie en Amérique. Avec certains yeux, on peut être dans l'incompréhension totale et crier à l'horreur. Et si ça faisait partie du plan divin ? Juste en se posant cette question, ça nous remet à notre place. Le fait que ça arrive sur la place publique, sur tous les continents, et que forcément tous les esprits, tous les cœurs se joignent à ce lieu, à ces êtres, ça prend un sens. Un sens planétaire qui nous dépasse complètement. Ça peut être une autre façon de l'expliquer, et puis il y en a peut-être d'autres, de toute façon je ne sais pas. Arrêt sur l'image. Quand Sylvain a dit ça, ça m'a amusé parce que il y a le bouillonnement du samovar qui s'est mis en route. Ce bouillonnement de vie. Être à l'écoute de ce bouillonnement de vie. Devenir lune-soleil, ça m'évoque un thème qui m'anime en ce moment. Avis avant de commencer à faire retentir le son d'un bol cristal. Et c'est amusant parce que je ne l'ai pas fait, mais j'avais envie de lui dire « Tiens, au lieu de prendre les cloches, tu ferais bien de prendre le bol cristal. » Donc il a fait retentir ce bol qui a la couleur, le son, c'est pareil, du chakra du cœur. Mais le cristal, c'est aussi notre nouvelle ère. Nous passons d'un état carboné à un état cristallin. Tout s'est illuminé, semble-t-il, le 12-12-12. Gris qui se cristalline, illuminé. Et il faut savoir que nous-mêmes, nous sommes constitués de cristal, plus que 7 grammes. Si bien dans nos cheveux, dans notre peau, dans nos glandes, dans nos organes. Et puis Avi a envoyé une vidéo sur la grotte de Naïka ou les grottes de Naïka. Ça n'a fait qu'amplifier mon intérêt qui est là, il n'y a pas à forcer. Je suis complètement animée par le cristal. Ce cristal qui se forme par une sursaturation de minéraux dans l'eau, une eau très chaude, à environ 54 degrés, si je me souviens bien. Et donc cette sursaturation fait que ces minéraux prennent forme. Et donc pour certains, ça se transforme en cristal. Ça baigne dans cette eau. C'est sous la terre, protégé par la terre-mère. Et c'est lumineux, c'est pur, c'est transparent. C'est absolument incroyable, ce monde minéral. On pourrait penser que sous la terre, c'est sombre. C'est complètement compact, dense. Ça l'est, mais c'est transparent en même temps. Ça a une structure parfaite. Et c'est doté d'une grande lumière. Alors nous, phares de lumière, lampadaires, comme disent certains, pour aider cette terre-mère, je vous invite en tant que méditation à prendre conscience de votre état cristallin qui ne fait que grandir. Nous sommes en pleine mutation sur tous les plans et notamment physique. comme certains peut-être peuvent le constater par plein de symptômes, et notamment par un besoin de dormir, ce qui est mon cas. Plein de douleurs qui peuvent venir comme ça, puis disparaître aussi rapidement, c'est assez surprenant. Et donc, en se connectant à notre part lumineuse, cristalline, qui est là, qui est manifeste, on se reconnecte à notre dimension, premier chakra, minéral. On se connecte à notre terre, à sa lumière. Voilà, visualiser tout simplement ce lien de lumière intérieur, extérieur. La terre est lumière. La terre est cristalline. Visualisez cette terre, une boule de lumière. Qui rayonne. Nous sommes boule de lumière et nous rayonnons. Et nous ne faisons plus qu'un entre cette terre, nous, lune-soleil. C'est un grand jaillissement de lumière. C'est un puissant cristal. Celui qu'on a découvert fait plus de 13 mètres. Mais on peut visualiser un cristal encore plus grand, enchevêtré avec d'autres cristaux qui se forment tout autour. C'est nous-mêmes, c'est nous tous.
Alors, il me vient de parler du temps. Je ne sais pas pourquoi. C'est un sujet qui me vient. Et en même temps, c'est le cas de le dire, nous sommes dans une période que certains appellent la fin des temps. Et le temps fait partie d'illusion comme un élément qui nous permet de séparer les expériences. Et le temps est réellement humain et réellement notre fabrication. A priori, les animaux ne vivent pas le temps, ne vivent pas dans les mémoires du passé, dans les projections du futur, mais vivent seulement l'instant présent. Et si nous examinons notre relation au temps, nous avons pu avoir des événements traumatiques dans notre enfance, et ce qui nous en reste, c'est une empreinte traumatique dans notre mental, dans notre disque dur. Mais en vérité, maintenant, l'événement n'est pas présent. Est terminé depuis longtemps. Il n'a pas de réalité. Et si j'imagine demain 14h, place de la République, et même si je le note dans mon agenda, il n'est pas réel pour autant, il est aussi uniquement mental. Donc qu'est-ce qu'il reste ? L'instant présent. Le seul instant qui soit. Tout le reste est une fabrication mentale, une manière de perpétuer quelque chose qui s'est passé, mais qui est terminé depuis longtemps, une manière d'anticiper quelque chose qui ne s'est pas produit, par le jeu des images mentales et de l'imagination. Donc, que nous arrivions à la fin des temps, ça me paraît très, très possible, puisque c'est un processus individuel. J'ai fabriqué le temps dans mon esprit pour me servir dans l'illusion, dans la dualité, et donc je peux aussi arrêter de le fabriquer. Alors là, j'ai eu une aide précieuse avec nos amis extraterrestres, qui donne une définition très intéressante. Alors, ce que je cite, c'est les lettres humites d'une civilisation qui est sur une planète qui s'appelle Humo. U2MO, pour ceux qui cherchent. Il y a beaucoup de littérature sur Internet. C'est passionnant pour moi. Voilà, peut-être c'est un souvenir que je viens aussi de là-bas, je ne sais pas, mais ça me touche beaucoup. Alors eux, ils nous décrivent tout, notre vie quotidienne, mais à un moment donné, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est leur définition du temps. Et ça résonne énormément en moi comme quelque chose de vrai. Et eux, ils disent que le temps, c'est un enrichissement d'informations perçues. C'est-à-dire, il se passe quelque chose. Et plus il se passe quelque chose, plus il y a de la densité dans les événements et plus je perçois du temps. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons expérimenter, que le temps peut passer vite ou lentement en fonction de ce que nous vivons. Des émotions associées, des expériences. Et s'il se passe énormément de choses dans un temps physique court, dans un temps horloge court, nous avons l'impression que c'est passé très vite, hein. Il y a une densité, je sens que le temps est passé à toute vitesse parce que j'ai reçu énormément d'informations. J'ai enrichi l'information que je reçois et que je perçois. C'est quoi l'enrichissement? C'est à partir d'un état, un changement d'état. Et donc, dans la dualité, il n'y a aucun changement d'état. C'est la félicité en permanence. C'est l'amour qui rayonne en permanence. C'est inchangeable, invulnérable. Et donc, dans ce contexte, évidemment, il n'y a pas de temps. Et qu'est-ce qui se passe dans ma vie humaine quand je ralentis mon rythme? Ou qu'est-ce qui se passe dans une expérience où apparemment, il se passe très peu de choses. Alors j'ai l'impression, je peux m'ennuyer, et j'ai l'impression, et l'ennui vient de la sensation que le temps paraît long, parce qu'il n'y a pas d'enrichissement d'informations, ou très peu. Et j'éprouve ça comme de l'ennui, parce que c'est une forme de « je veux qu'il se passe des choses ». Et l'ego réagit par l'ennui, qui juge, il se passe pas à cette chose-là. Allez, fais quelque chose, là. Fais un scénario, inscris un truc, là, que j'arrête de m'embêter. Mais qu'est-ce qui se passe à l'extrême quand je m'assois en méditation, quand je rentre dans mon intériorité et que je suis présent complètement à ce que je suis, il n'y a aucun changement. Il y a zéro enrichissement. Et j'entre dans un temps, dans un espace de non-temps, dans un espace infini, dans une éternité. L'éternité, c'est simplement une succession d'instants présents en permanence, qui ne sont pas fixés dans la mémoire ni dans l'anticipation. Donc, méditer, c'est abolir le temps, d'une certaine manière, pendant un moment donné. Parce que je décide de ne pas enrichir l'information présente en arrêtant de faire des choses. Et je rejoins le sentiment d'éternité. Je rejoins aussi cet instant présent éternel, permanent, qui n'est pas dans le temps. Et donc, je déconstruis le temps quand je fais ça. Et donc, avec ces exemples-là, aussi bien dans la densité du temps, dans l'ennui, dans l'arrêt apparaît du temps apparent, alors je vois que je le manipule comme je veux, je l'interprète comme je veux. Je peux aussi bien l'accélérer que le dissoudre, à volonté. Et que donc, il n'existe pas, il est ma création à 100%. Waouh ! Je suis le maître du temps. Quel bonheur ! Et si c'était ça la fin des temps ? Et la fin des temps serait seulement quelque chose d'individuel, dans ma conscience, de personnel. Une autre façon de regarder le monde. Arrêter de réclamer des événements. Arrêter de précipiter les choses. Vivre d'instant en instant. Vivre dans cette éternité de l'instant présent. En laissant passer ce qui est passé sans m'y accrocher. Que ça soit facile ou difficile. Et en n'essayant pas d'imaginer ce qui va venir, en le laissant venir à moi, en le constatant au fur et à mesure qu'il vient. Et là, je commence à affirmer ma nature divine. Parce que dans un état inchangeable, dans un état où l'information n'est pas enrichie, je rejoins l'état de Dieu, l'état inchangeable, l'amour, qui est la seule réalité, mais qui ne change jamais. C'est toujours là et en permanence, et c'est toujours alimenté sans jamais changer, ce qui paraît un paradoxe pour l'ego. Et il m'est venu une autre idée à propos de l'amour. Et si aimer, ça n'était pas seulement envoyer des vibrations à quelqu'un, et si c'était pas seulement agir avec le cœur ou être dans le cœur, et si aimer, c'était Ne s'opposer à rien. Accepter tout inconditionnellement. Ne plus rien juger. On me donne une critique, on me fait un jugement. Oh mon chéri, comme tu dois souffrir. Ah oui, je comprends. Tu ne deviens pas mon ennemi parce que tu m'as jugé. Je peux inclure ton jugement dans notre relation, dans notre amour, dans l'amour que je te porte. Et puis quoi que ce soit qui se passe, alors je le regarde survenir dans ma vie. Ça survient. Je le constate. Quand je le constate, je ne peux pas le juger. Je ne peux pas y juger, c'est s'opposer à quelque chose. Parce que c'est créer le bien et le mal, c'est créer cette polarité d'opposition, comme la lumière et l'ombre. Et donc, dans cet état qui ne s'oppose à rien, tout ce qui vient est bienvenu. En un mot et en deux mots. Il m'arrive quelque chose de pénible, où j'ai une douleur, où je souffre. Je le constate. C'est aussi bienvenu. Ce n'est pas quelque chose que j'exclus en disant « ça ne devrait pas être ». Ça m'arrive, voilà, je prends note, je regarde ce que ça me fait, je l'inclus dans mon expérience de vie, plutôt que le rejeter, m'y opposer, l'exclure. Ça fait partie. Et donc, je peux aimer cet événement, parce que je ne m'y oppose pas. C'est quand je commence à le juger que je crée les opposés, que je crée l'enfer, que je crée l'opposé de l'amour. Mais l'amour n'a pas d'opposé si je ne commence pas à le fabriquer avec un jugement, si je ne commence pas à le fabriquer en m'opposant à quelque chose, en m'opposant à quelqu'un, en m'opposant à une situation, en m'opposant à une pensée, en m'opposant à quoi que ce soit. Puisque dans la non-dualité, il n'y a pas d'opposé. Je rejoins consciemment la non-dualité en arrêtant les batailles intérieures. Tout se passe dedans. Je me sauve moi-même, je n'ai pas besoin qu'on m'aime pour être sauvé. Je me sauve en constatant les choses et en les incluant dans mon expérience. Je ne deviens pas pour autant indifférent. Hein. Bienvenue à cette expérience. Elle est bonne, je me réjouis, je la partage. Elle est supposée négative. Bienvenue, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Viens dans mon champ d'expérience. Oui, j'ai ça à apprendre. D'accord. Je te bénis, expérience négative, je te bénis. Parce que tu ne viens pas sans raison. Tu viens pour que je te traverse. Je brille dans ma lumière et je passe à travers l'obscurité que tu sembles représenter. Et c'est ça la leçon que j'ai tirée dans le panier. Il y a une autre façon de regarder le monde. Alors il me venait une blague tout à l'heure qui m'a paru tout d'un coup très spirituelle, mais dans les deux sens du terme. C'est quelqu'un qui a perdu ses clés et puis il cherche sous un lampadaire. Et il y a une personne qui lui dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Ben, il dit « J'ai perdu mes clés, je cherche mes clés. » Et il lui dit « C'est là que vous les avez perdues ?»« Non, non, mais c'est là qu'il y a de la lumière, donc c'est là que je cherche. » Alors le sens spirituel qui tout d'un coup m'est survenu, c'est, il y a sur Terre des lampadaires, comme disait Odile, des porteurs de lumière, ceux qui ont un chemin d'incarnation avec des expériences un peu plus nombreuses et qui peuvent reconnaître et briller de leur soleil, lune, et ceux qui momentanément sont égarés, ont perdu les clés de leur maison fondamentale, de leur cœur, de la maison de Dieu, de l'amour, eh bien, ils vont chercher leurs clés sous le lampadaire, sous les porteurs de lumière. Et c'est, même si c'est pas là qu'ils les ont perdus, c'est là qu'ils vont les trouver. Parce que la clé, c'est ouvrir la porte du paradis, du cœur intérieur, de l'amour que nous portons. Voilà, tout d'un coup, cette blague s'est transformée en quelque chose de très spirituel pour moi. Et voilà, c'est pas pour rien que le mot spirituel a une double connotation. Hein. C'est humoristique et c'est aussi élevé. Et la plupart des maîtres ont un grand sens de l'humour. Parce que l'humour, c'est prendre de la distance avec quelque chose. Si je peux faire de l'humour avec la mort n'est pas dramatique. Hein. La mort n'est pas si sérieuse que ça. Quelqu'un disait, l'humour est une chose trop sérieuse pour être confiée à des rigolos. Donc, rire de tout, ça peut revenir aussi à rire de la dualité. Ça peut revenir à dire, la dualité n'est ni dramatique ni sérieuse. C'est un grand champ d'expérience. Et en soi, elle est neutre et on peut en rire. Parce qu'on apprend des choses, donc merci. Hein, merci. Donc, j'ai ouvert par hasard, ou pas, le livre L'Évangile selon Jésus, de Paul Ferrini. Donc, c'est une canalisation hein, qu'il a reçue. C'est vraiment très, très beau. Et puis, je suis arrivé sur un paragraphe qui s'appelle Le Salut. Et bah, il m'a bien touché. Et ça commence comme ça, vous êtes la voie, la vérité et la vie, tout comme je l'ai été. C'est vous qui vous apportez le salut, pas moi. Car vous seul pouvez reconnaître que votre expérience vous appartient et pouvez la porter à un niveau plus élevé. Vous seul vous apportez l'amour que vous attendiez des autres. Vous seul vous sauvez de vos relations de maltraitance. Ce n'est qu'au moment où vous apprenez que vous êtes vous-même le porteur de lumière que l'obscurité disparaît. Mais avant de devenir ce porteur de lumière, vous devez traverser vos propres ténèbres. Lorsque vous ne craignez plus de regarder quoi que ce soit qui vous concerne ou concerne les autres, les ténèbres n'ont plus de prise sur vous. C'est alors que vous pouvez les traverser et être dans la lumière. Prétendre être le porteur de lumière avant d'avoir fait face à sa propre peur est une imposture. Les guérisseurs qui ne sont pas guéris sont des charlatans. Ces gens-là finissent tous par tomber de leur piédestal. Quand on n'a que la prétention d'avoir la lumière, les ténèbres dominent encore. Pour être la lumière, vous devez enlacer l'ombre. Vous devez réussir à accepter l'ego et comprendre sa futilité absolue. C'est le cœur empli d'amour que vous devez apprendre à regarder la peur. Vous devez savoir que toutes les peurs sont identiques et qu'elles trahissent toutes un manque d'amour. En plus, vous devez apprendre à répondre avec amour à la peur. L'amour est la réponse à votre sentiment le plus profond de séparation. Voilà pour ce passage très parlant sur le salut, que avant de reconnaître notre lumière, nous avons tendance à attendre de l'extérieur. Nous avons tendance à chercher l'amour chez l'autre, ou à être sauvé par le monde, la politique, la religion, les extraterrestres. Venez avec votre soucoupe, venez me prendre, emmenez-moi dans votre paradis pour qu'enfin je sois heureux. Voilà, ceci est une prison. Parce que peut-être qu'ils ne vont pas venir. Et peut-être que je ne serai jamais heureux à l'extérieur. Donc, le salut, c'est la capacité que j'ai à m'aimer moi-même sans condition et à irradier cet amour sans condition autour de moi, comme Dieu fait. En définitive, j'ai à me rappeler que je suis Dieu et que ces propriétés-là, je les ai. Et tout à l'heure m'est venue l'image d'une terre avec 7 milliards d'humains, tous des dieux, tous brillants d'une lumière absolue, sans exception, jusqu'au plus noir des criminels. Tous des dieux dont un certain nombre s'ignorent totalement, ont oublié totalement cette nature divine, et dont un autre nombre beaucoup plus réduit a la tâche de refléter leur lumière et de leur rappeler qui ils sont. Comme un miroir, si je suis lumineux et que j'ai un miroir devant moi, ben, je vais voir ma propre lumière. Mais je peux aussi voir ma propre ombre. Je suis persuadé de l'être, de n'être pas lumineux. Donc c'est le rôle de la multiplicité. On est en fait dans une boule de discothèque, là, une multiplicité de miroirs qui nous renvoie plein d'éclats de lumière. Et il y a 7 milliards de facettes. Un diamant immense. Et je peux... Il y a une autre façon de regarder ce diamant. Je peux voir plein d'êtres de lumière qui jouent à des jeux. Et je peux voir plein de démons obscurs qui vivent des peurs. Et je peux m'identifier à l'un ou à l'autre. Il y a une autre façon de regarder le monde. Et dans la leçon 33 que j'ai ouverte tout à l'heure pour l'approfondir, il est conseillé régulièrement dans la journée de s'arrêter, de faire une pause de 5 minutes, d'examiner tout ce qui se passe à l'extérieur. Avec cette phrase, il y a une autre façon de regarder le monde, et ensuite de tourner le regard vers l'intérieur, d'examiner chaque pensée, chaque sentiment, avec la même phrase, sans faire de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Et il y a une autre façon de regarder cela, si j'ai une émotion, et de persister là-dedans. Et ceci est la voie d'introduction au pardon véritable. Je suis blessé, je me sens ridicule, je me sens jugé, je me sens petit. Il y a une autre façon de regarder cela. Et cette façon est mon salut. Comme disait Jésus, je ne peux pas aimer qui que ce soit avant de m'aimer moi-même, avant de me sauver moi-même. Et cet amour que je me porte est le point de départ de mon salut, à partir duquel je vais pouvoir l'étendre à partir duquel je vais pouvoir le reconnaître tout autour de moi, même très bien déguisé, pouvoir reconnaître sa réalité. Et lorsque je le reconnais comme ultime réalité, sans aucun opposé, sans aucune exception, dans le monde dans lequel je vis, alors la dualité est terminée. Et la dualité est une invention de mon esprit. J'ai créé les conditions, je peux abolir les conditions. J'ai créé la peur, je peux abolir la peur. J'ai créé le monde, je peux abolir le monde. J'ai créé le temps, je peux abolir le temps. Et ainsi, je suis Dieu, je suis tout-puissant pour terminer ce jeu. Ou le continuer encore pendant quelques millénaires, si j'ai envie de jouer encore un petit peu. C'est une manière de retrouver ou de réclamer mon pouvoir divin. Quand je dis « je suis Dieu », parce que ça commence par « je suis » qui est, qui sont deux mots extrêmement puissants. « Je suis » pour moi c'est la même chose que « Dieu est ». Je déclenche ce qu'on appelle la grande photocopieuse de l'univers. L'univers me dit « ok, combien d'exemplaires ?»« Je suis Dieu, combien ?»« 7 milliards !» Allez, on appuie sur le bouton. Un autre exemplaire divin sur Terre. C'est ça l'abondance. Quand je dis je suis, l'univers répond ok patron, c'est toi le patron. Mais dis-moi combien tu en veux. Et donc j'ai aussi ce pouvoir de générer cette abondance simplement en la reconnaissant. Je suis dedans. C'est de toute manière vrai. Je me suis persuadé du contraire, et donc je vis mes croyances, et donc c'est vrai pour moi que je suis pauvre et limité et incapable, ou riche et dans l'abondance et omnipotent. Mais ce que je crois se réalise si j'y crois suffisamment avec authenticité, si j'y mets tout mon désir. Parce que je suis un être puissant et divin et qui a le pouvoir de réaliser ce à quoi il croit. Voilà. Ceci est très pratique. Ceci est très pratique. La vie peut changer radicalement si je change ma façon de regarder le monde. N'importe quel frère peut être digne d'amour. N'importe lequel. Et je ne fais plus de distinction entre les uns et les autres. Que cela soit.
Il y a 2000 ans, d'après ce que nous disent les textes, et effectivement ça continue maintenant, c'est tout à fait authentique, Jésus nous disait « redevenez comme des petits enfants ». C'est dit et répété, et c'est encore peu vécu. Il y a évidemment des mythes là-dessus, comme les chevaliers de la table ronde avec Perceval. Et voilà, le jeune qui tire l'épée du rocher, qui est l'épée qui est plantée dans le rocher, et tous les princes avec leurs armées, les costauds, n'arrivent pas. Mais l'enfant qui arrive, il l'enlève comme ça, d'une main légère, il l'arrache du rocher. Et parmi nous, dans le passé, il y en a eu assez peu. Il y en a eu pas mal, mais c'était encore assez marginal. Ceux qui ont dit, écoutez, voilà où je vais. Si ça vous parle, ben vous venez avec moi. Ben, c'est ça, être enfant. Et alors, c'est ce que nous nous disons les uns les autres, et c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, là, en cette fin de cycle, à l'approche de ce 21 décembre 2012, et le redémarrage d'un nouveau cycle, eh bien, je vous dis, mais quelque part, je fais écho à votre cœur aussi, parce que c'est comme si ensemble, nous nous disons les uns les autres, bon, ben, c'est là que je vais. Si ça vous parle, ben, vous venez avec moi. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va se voir physiquement et qu'on va faire des choses ensemble physiquement. Seulement, nous sommes un. Et ça, qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou pas, c'est comme ça. Dieu est tout ce qui est, nous sommes un. Et il n'y a pas de séparation. Donc, quand je vous dis, ou quand quelqu'un vous dit, ou vous vous dites, voilà, c'est là où je vais, si ça vous parle, on y va ensemble. Eh bien, c'est exactement ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire. Et quelque part, je le dis maintenant, consciemment, peut-être peu l'entendent, mais dans leur cœur, tout le monde l'entend, chacun dans son cœur. Et donc, en cette fin de cycle, c'est le dernier groupe chez Avi ici, avant ce 21 décembre. Le prochain groupe aura lieu dimanche prochain, le 22. Vendredi 21, samedi 22, non, samedi 22, pas dimanche, samedi 22. Donc après le 21, bien sûr, tout ça c'est symbolique. C'est comme un jeu que je fais là. C'est comme une guidance, une intuition. Comme un peu de musique, comme une poésie, comme une petite œuvre d'art spontanée qui consiste à dire, voilà, c'est là que nous allons. Quelque part, on va tous au même endroit. Eh bien, si vous voulez, on y va ensemble. Ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement puissant. Pourquoi ? À cause de qui nous sommes. Jésus avait cette expression, et ça continue toujours d'ailleurs, qui n'a pas été comprise à l'époque, ou très peu comprise, seulement par un tout petit nombre. Nous sommes le Christ, c'est-à-dire nous sommes la manifestation de la source. La manifestation du Père, l'expression du Père, la création du Père, la création de la source, or créer dans le monde réel, c'est s'étendre soi-même, c'est nous sommes l'extension de la source, et non pas une projection à l'extérieur, il n'y a pas d'extérieur. Et donc quand l'un d'entre nous dit avec confiance, c'est là que je vais, je vous invite, quelque part je le verbalise avec des mots, mais le travail il se fait en moi dans le silence. Et quand je le fais avec une conviction absolue, à ce moment-là, tout le monde est avec moi. Ça n'empêche pas que nous allons vers des actions concrètes dans la matière, nous les travailleurs de lumière, et que quand nous nous disons les uns les autres, bien voilà, c'est là que nous allons, eh bien nous y allons ensemble. Quelque part, nous participons d'une manière tout à fait concrète, même si ce n'est pas physiquement, nous participons à tout ce qui va, tout ce qui est nouveau sur cette planète. Toutes les nouvelles manières de vivre ensemble, de cultiver, de faire du commerce, de faire des enfants, d'avoir des familles, de vivre ensemble, de manger ensemble, etc. C'est très, très concret. Et là, il n'y a pas de limite. C'est l'homme nouveau, c'est la nouvelle Jérusalem dont nous parlons. C'est quelque chose qui est au-delà de tous les mots, M-O-T-S. C'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut en dire, et pourtant, c'est aussi quelque chose qui est très concret dans la matière, dans notre expérience physique, humaine. Et donc voilà, c'est une invitation joyeuse d'enfant, sans aucune limite. C'est là où je vais, c'est là où nous allons ensemble, et nous sommes invités à y aller joyeusement, en ayant vraiment la conscience des petits-enfants. Enfin, retrouver cette conscience d'enfant dont nous parlait Jésus il y a 2000 ans. Je voudrais aussi rebondir sur cette question de d'être multidimensionnel et d'aide apportée à la Terre par des êtres extraterrestres. Ça va devenir de plus en plus concret, visible. Mais il faut bien comprendre, et c'est très important, que quelque part, ça ne nous sauve pas. Nous sommes sauvés. C'est tout le thème que développait Jésus il y a 2000 ans et qu'il développe dans le cours en miracle et qu'on a dans tous les enseignements non-duels, c'est qu'il n'y a rien à sauver. C'est pour ça que le travail de collaboration avec des êtres multidimensionnels et nous ici, humains, pour le moment trois dimensions sur cette planète, nous qui passons dans la cinquième dimension, quatrième et cinquième dimension, c'est un travail d'orfèvre extrêmement délicat parce que personne ne sauve personne dans l'affaire. Personne ne sauve personne. C'est une collaboration joyeuse, une création de nouveaux modes de fonctionnement ensemble pour des expériences nouvelles, pour exprimer la vérité de manière nouvelle. Mais la vérité ne change pas. Qui nous sommes ne change pas. Et j'ai bien aimé le livre que j'ai été guidé à écrire avec Phoebe il y a maintenant 23-24 ans, en 1987-88, qui s'appelle « Au-delà d'un courant miracle ». Et la courte introduction que Jésus nous avait dictée avant d'écrire le livre et que j'étais guidé à mettre en préface, en petite introduction, est la suivante. Et elle commence à prendre une signification extrême en cette période. Et la voici, cette petite introduction. Il y a ceux d'entre nous que l'esprit persuade avec douceur de passer au-delà d'un cours en miracle. Le temps est venu pour nous de passer au-delà du cours obligatoire pour exprimer la vérité de façon nouvelle. Ceci est au-delà de tous les mots, néanmoins, des mots sont encore utilisés. Donc nous voyons bien ici, le temps est venu pour nous de passer au-delà du cours obligatoire pour exprimer la vérité de façon nouvelle. Le cours obligatoire, c'est dans l'introduction du cours en miracle. Ceci est un cours en miracle, c'est un cours obligatoire. Ça veut dire que tout le monde y passe, ça veut dire que c'est inévitable. Voilà ce que ça veut dire. Et pour le moment, c'est un outil. Comme tous les outils, tôt ou tard, on le lâche. C'est-à-dire que ça ne le dénigre pas. Simplement, c'est très subtil parce qu'on n'a pas les mots, puisque là, c'est dit dans l'introduction, ceci est au-delà de tous les mots, pourtant les mots sont encore utilisés. C'est-à-dire que je suis en train de parler de ça, alors que c'est au-delà des mots. On peut dire d'ailleurs avec un bon éclat de rire que nous sommes toujours au-delà de tous les mots, M-O-T-S, hein, bien sûr. Mais dans notre manifestation concrète, là, dans notre expérience humaine, dans tous ces cycles incroyables de 26 000 ans, 100 000 ans, 200 000 ans et plus, il y a quelque chose de nouveau dans l'expression, dans la manifestation. Et il y a une invitation à redevenir comme des enfants, à lâcher prise, à vraiment lâcher prise pour se jeter dans les bras de l'amour, dans la confiance. Plus que jamais, nous regarder dans les yeux les uns des autres en disant « Je t'aime, tu m'aimes. Tu m'aimes, je t'aime. Tu es mon soleil, ma lune. » Je me reflète en toi et tu me reflètes, etc. Ceci est au-delà des mots, et pourtant des mots sont utilisés. J'étais aux États-Unis pour présenter ce livre au mois d'octobre, et j'avais été prévenu par l'esprit avant de partir que beaucoup ne comprendraient pas vraiment encore. Certains oui, d'autres non. Effectivement, c'est ce que j'ai observé. C'est tout à fait normal. C'est un processus qui prend du temps. Et même les mots que je suis en train de dire là, certains d'entre vous vont les comprendre plus que d'autres. Ça n'a aucune importance. Rien n'est important. C'est vous qui êtes important. C'est pas la vérité. La vérité n'est pas dans les mots, elle n'est pas dans un livre, elle n'est pas dans un outil. C'est vous la vérité. Nous sommes la vérité. Nous sommes la vie, le vivant. Alors, il y a un paradoxe, c'est qui nous sommes ne change jamais, c'est immuable, éternel. Mais en même temps, nous allons vers de nouvelles expressions, de nouvelles aventures, de nouvelles expériences qui, quelque part, on va dire, créent de nouveaux rêves, de nouvelles façons de partager les choses ensemble, de nouvelles façons de vivre, d'expérimenter cette planète ensemble. C'est peut-être un rêve, c'est peut-être pas réel, mais c'est merveilleux. Et donc ça, c'est pas nier. D'ailleurs, le cours en miracle ne lie pas parce qu'il dit vous passez au rêve heureux. Vous devenez un étudiant heureux et vous rentrez dans un rêve heureux. Donc c'est effectivement encore une illusion. L'univers entier est une illusion, mais nous allons vers une illusion joyeuse, un bonheur incroyable. Et comme nous disent des êtres multidimensionnels qui nous informent en disant, vous savez, ce que vous allez vivre, c'est bien au-delà, bien plus merveilleux que tout ce que vous pouviez imaginer. Alors pourquoi pas? Et c'est là que nos cœurs d'enfants, eh bien, on dit, d'accord, évidemment, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est cette confiance d'enfant qui permet justement au nouveau monde de se manifester d'une manière concrète sur cette planète. Et disons le portail de 2012, qui va donc déboucher sur 2013 et après, 2014-2015, c'est vraiment ça, c'est vraiment une porte qui s'ouvre vers un nouveau que nous co-créons ensemble. Comment ? Dans un amour inconditionnel. Un amour d'enfant, de petits frères et de petites sœurs qui se regardent et qui se disent tranquillement « Mais je t'aime et tu m'aimes et c'est tout, et rien d'autre. »
Voilà, je sens de clôturer bientôt ce groupe. Et avant, j'ai été inspiré à nous réunir vendredi prochain dans une simplicité la plus grande possible autour d'un programme sans programme. Autour de qui nous sommes, autour de soyons nous-mêmes, vraiment. Laissons-nous être ensemble pour le bonheur d'être ensemble, de nous apprécier, de déposer tous les masques usés jusqu'à la corde qui ne servent plus à rien. Un moment où les protections ne sont d'aucune aide et nous pouvons joyeusement les déposer pour rire ensemble, chanter ensemble, danser ensemble, célébrer cette conscience qui dans l'espace du cœur est appelé à se déployer de plus en plus. À mesure que nous disons oui à ça, à qui nous sommes. Donc c'est un cadre, une invitation pour nous rappeler, pour être des reflets les uns pour les autres de notre lumière et pour sentir la joie profonde d'exister sans rien de plus, faire partie de cette œuvre joyeuse et géante qu'est l'existence, qui n'a pas de début et pas de fin, avec toutes ses circonvolutions et ses créations infinies, toutes ses formes et ses non-formes. Voilà, faire danser tout ça, le reconnaître, trouver ce qui s'exprime dans l'amour, sans artifice, sans déformation. Et puis, s'autoriser en groupe parce que nous multiplions le pouvoir de nos intentions lorsque nous nous réunissons en tant qu'esprit. S'autoriser en groupe à être vraiment nous-mêmes. À nous laisser inspirer d'instant en instant parce qu'il nous fait du bien. Et donc, peu importe combien nous serons, je disais, ça sera parfait. 10, 20, 50. Autant que la maison peut en contenir. Et même davantage. J'ai de la place sur mes genoux. Et j'en ai deux. Et chacun en a deux. Plus on est fou, plus on rit. Ouais, soyons fous. Soyons nous. Ayons la folie d'être nous, sans artifice. C'est vrai que c'est un défi dans ce monde d'ego, de déposer les armes défensives. Pourquoi déposer les armes? Parce que elles sont plus utiles. Elles sont plus utiles maintenant. Le temps est venu de déposer les armes. Nous avons assez joué à ces jeux. Et ce jour-là peut être la fête du début du monde, comme je l'ai dit. Beaucoup parlent de fin du monde, et moi je parle au début d'une manière de regarder le monde, et donc de le créer différent de ce que nous avons toujours fait dans ce monde-ci. Et en cela, cette nouvelle ère, c'est un début, un nouveau début. Pour l'humanité. Imaginez 7 milliards de soleils, nous sommes dans une vraie constellation sur cette terre et nous inondons le monde de notre lumière. Voilà, ceux qui le sentent, rendez-vous à partir de 14h et puis c'est possible de rester dormir pour ceux qui le sentent ou pour ceux qui que ça arrange tout simplement parce que ils sont loin de leur domicile. Et la maison que j'avais appelée à l'origine la maison de l'Arche, il m'a été inspiré de la nommer à présent pour cette soirée en même temps la maison de l'Arche d'Alliance. Parce que nous nous allions les uns aux autres, nous nous unissons dans notre nature véritable. Et à nouveau, je vais faire résonner cette note Fa qui parle à notre cœur, qui commence dans notre cœur et finit dans notre cœur, qui peut être le reflet de l'amour que nous donnons et recevons. Et lorsque cette note résonnera, je vous invite à laisser aussi votre cœur l'accepter, la laisser entrer. Que tu sois ici dans cette pièce ou devant ton ordinateur, simplement dans la simplicité du cœur, cette note nous représente tous. Voilà, dans la joie du prochain partage, le samedi 22 décembre à 16h. Ou avant, je fais résonner ce gong, ce bol.